j'aimerais lire avec vous ce que Dieu va donner au peuple à travers Moïse. Et cela est inscrit dans le livre du Deutéronome au chapitre 7. Chapitre 7, versets 6 à 11. Voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète Moïse. Il dira ceci: tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Et voici le texte sur lequel nous allons nous appuyer. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui respecte ses commandements. Oui, en revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent, et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste. Il lui rend directement son dû. Ainsi, respecte les commandements, les prescriptions et les règles que je te donne aujourd'hui, mets-les en pratique. Amen. Voilà ce que Dieu va dire à Moïse pour qu'il communique aux enfants d'Israël alors qu'ils s'apprêtaient à conquérir la terre promise. Dieu donne à Israël des commandements et il s'attendait à ce que ce qu'il a donné soit respecté. Vous savez, quand nous lisons les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Mais qui est-ce que ces livres vous inspirent quand vous les lisez? Qui est-ce que le livre de la Genèse vous inspire? Qui est-ce que le livre de l'Exode vous inspire? Qu'est-ce que le Lévitique, le livre des Nombres et le livre de Deutéronome vous inspirent quand vous les lisez? Répondez-moi. Ou ne me dites pas que vous ne lisez pas les cinq premiers livres. N'allez pas lire simplement le Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dans ces premiers livres. Parce que quand nous tournons déjà vers le livre de la Genèse, il nous parle de la création du monde. Il nous parle non seulement de la création du monde, mais dès le livre de la Genèse, nous voyons que c'est Dieu. Dieu se choisit un peuple qui lui appartienne et qui l'adore. Déjà, dès le livre de la Genèse, c'était un fait. Dieu se choisit un peuple qu'il adore. Lorsque Dieu va choisir Abraham, il se choisissait par voie de conséquence ce peuple-là mis à part pour lui. Quand nous lisons le livre de l'Exode, il nous raconte les événements qui sont liés à la libération d'Israël. Lorsque Israël était en Égypte, Dieu va libérer Israël. Mais ce livre aussi nous parle de l'épanouissement du peuple en tant que nation. Parce que Dieu, et comme je le dis et je le répète, Dieu veut le bonheur de ceux qu'il aime et qui lui appartiennent. Le livre de Lévitique, puisque Dieu va choisir Israël, voilà, après avoir fait sortir le peuple de la servitude, il savait que, étant sorti d'un peuple, d'une nation qui avait une multitude de dieux, Israël allait être encore confronté à des nations qui servaient d'autres dieux. Mais pour le préserver, pour que ce peuple soit mis à part, afin d'être un témoin, Dieu va donner des instructions, non seulement pour le service, mais aussi par ces instructions-là, Dieu montre à Israël la manière de vivre sainement devant lui pour être en communion. Le livre de Nombres nous raconte comment les Israélites se sont préparés pour conquérir Canaan. Mais il nous parle aussi de comment le peuple a péché et que voilà, Dieu va le sanctionner. Mais il parle, il termine en montrant comment pour une seconde fois, le peuple se prépare encore pour prendre en possession Canaan. Et nous arrivons au livre de Deutéronome qui nous montre l'action de Dieu envers Israël, mais ce livre nous parle de l'encouragement que Dieu donne à son peuple pour qu'il se consacre à lui. Et nous arrivons à ce texte-là, et c'est le verset clé, même le verset central de ce livre du Deutéronome, où Dieu va rappeler à Israël qu'il a été mis à part. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, Dieu va choisir Israël, mais il montre encore par là que ce n'était pas à cause de ses mérites, ce n'était pas à cause de son nombre, puisqu'il dira lui-même, tu es le plus petit, parmi tous ces peuples-là. Ces mêmes instructions, voilà, que contiennent, vous savez, des règles. Il y a des règles quand Dieu va donner les instructions. Il y a des règles. Il y a des règles dans ces instructions. Mais parfois, quand nous lisons ces choses, vous savez, récemment, en discutant avec quelqu'un, voilà, la personne me disait, j'ai du mal avec le livre de Lévitique, j'ai du mal parce que, voilà, il y a tout ce que Dieu dit de faire, tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Et parfois, vous savez, c'est contraignant parfois. On n'aime pas tellement quand on nous dit, fais ceci, ne fais pas cela. N'est-ce pas? On a du mal avec ça. Mais quand Dieu va donner ses instructions, c'était pour un but. En lisant ces paroles-là, ne voyons pas ces instructions comme une simple règle que Dieu a mise en place. Mais Dieu montre au peuple, à travers ses instructions, la juste manière de vivre devant lui. Pourquoi? Parce que beaucoup de nations étaient là et chacun vivait à sa manière. Et c'est à cause de cela même que Dieu les a rejetés. C'est à cause de cela que Dieu les a livrés à eux-mêmes. Mais en choisissant Israël, en mettant à part Israël, il voulait que ce peuple se mette à part. Il n'a pas voulu que Israël vive à la manière des autres peuples, mais qu'ils vivent à la manière que Dieu a voulu pour lui. Frères et sœurs, il en est de même pour nous. Il en est de même pour nous. Dieu ne veut pas que nous vivions comme nous voulons ou comme le monde. Il attend de nous que nous ayons une vie qui soit conforme à ce qu'il est et à ce qu'il a fait. Il attend de nous. Vous savez, ne voyons pas la Bible comme quelque chose de contraignant. Pourquoi? Parce que nous nous arrêtons malheureusement parfois aux obligations que Dieu donne. Mais il faut parfois des obligations. Avec nos enfants, nous donnons parfois des obligations. Parce qu'on les aime. Parce qu'on les aime. Et c'est la raison pour laquelle Dieu donne à Israël ces obligations-là. C'est par leur obéissance que le peuple allait servir Dieu d'une manière convenable parmi des nations qui vivaient comme bon leur semblait. Mais la Bible, nous devons par amour voir la Bible comme la parole de Dieu, comme des paroles venant de lui-même, des principes d'une vie juste. Et c'est la mise en pratique de cette parole-là, de ce que Dieu nous donne par amour et non pas par obligation. Et je le répète, par amour et non pas par obligation. C'est la mise en pratique de ces choses-là qui va nous conduire au vrai bonheur. Vous savez, quand Dieu va donner les instructions, au chapitre 10, verset 13, regardez ce que Dieu va dire à Israël. Deutéronome, chapitre 10, verset 13. C'est en bas. On va lire à partir du verset, déjà au verset 12, s'il vous plaît. À partir du verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme ? Que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je donne aujourd'hui. Pourquoi ? Afin d'être heureux. Amen. Afin d'être heureux. On se rend compte que ces instructions, ces commandements, ces lois, ces règles que Dieu a mis en place n'avaient pas pour but d'empêcher Israël de vivre, mais c'était afin de permettre à ce peuple-là de vivre heureux, d'être épanoui. Et aujourd'hui, malheureusement, pourquoi certains chrétiens ne sont pas épanouis? Pourquoi le peuple de Dieu n'est pas épanoui? C'est parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Il dira, voilà, que tu respectes, que tu obéisses, que tu mettes en pratique ce que l'Éternel te donne afin d'être heureux. Afin d'être heureux. Moïse va donner ses paroles. Et Dieu montre à Israël que, voilà, s'il a été choisi, et tout comme nous, nous n'avons pas été choisis à cause de nos mérites. Déjà, l'apôtre Paul va le dire, on l'a lu tout à l'heure. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Et dans Romains au chapitre 3, versets 21 à 24, il nous parle, il nous montre que Christ a reçu notre punition pour montrer à ceux qu'il aime la justice de Dieu par la foi. C'est là réellement ce que Dieu attend de nous. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos mérites. Il dira lui-même, ce n'est pas parce que vous dépassez, en effet vous êtes le peuple le plus petit, mais c'est parce que l'Éternel vous aime, par qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos ancêtres, qu'il a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu et quand nous examinons nos vies, nous devons nous aussi voir les critères par lesquels nous avons été choisis, nous avons été sauvés. Nous avons été choisis à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritions. Tout comme à Israël, il n'a pas donné à Israël ce qu'il méritait. À cause de la désobéissance, Et nous voyons à plusieurs reprises, Israël a désobéi, Israël a enfreint la loi, Dieu va livrer Israël aux ennemis. Et quand le peuple criait à Dieu, Dieu, avec compassion, il faisait grâce, il étendait sa main pour délivrer. Et tout à nouveau, après avoir été délivré, Israël désobéit encore. Il crie à Dieu, Dieu lui vient en aide. Il oublie ce que Dieu a fait et il désobéit encore. Dieu le punit. Il réalise que ce que Dieu a fait est pesant sur sa vie. Il crie à Dieu, Dieu lui vient en aide. Et constamment, vous savez, c'est exactement avec nous. Hein? C'est tout ce que nous faisons avec Dieu. Tout ce que nous faisons avec Dieu. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Il nous fait grâce. Et c'est sur la base de cette miséricorde et de cette grâce, au regard de ce que Christ a enduré, au regard de ce que Dieu avait fait pour le peuple, il dira maintenant, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. L'attente de Dieu à son peuple, c'est de l'aimer en retour et de lui obéir. C'est ça la vraie vie de consécration. Aimer Dieu de tout notre cœur et lui obéir. Aimer Dieu. Vous savez, nous aimons parler de la croix. N'est-ce pas vous? On aime parler de la croix. Et je bénis Dieu pour la croix. Je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Je rends grâce au Seigneur de ce qu'il il a accepté d'être cloué sur cette croix. Et on l'a chanté tout à l'heure. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Et on dit, quel sauveur merveilleux! On est heureux de voir que le Christ a accompli une œuvre parfaite, merveilleuse, pour nous dégager de la condamnation du péché. On s'en réjouit et on s'en réjouira encore. Parce que c'est à travers cette œuvre-là que, une fois pardonnés, nous entrons pleinement dans la présence de Dieu, nous goûtons à son amour et nous pouvons avoir une communion avec lui pour espérer un jour être avec lui dans son ciel de gloire. Mais autant nous nous réjouissons de cette œuvre, il est à se rappeler que la croix est comme une porte que Dieu a ouvert devant nous. Une porte ouverte qui nous permet d'entrer dans une autre dimension de vie, dans une vie nouvelle. On ouvre la porte et on entre. Alors, nous ne devons pas simplement nous arrêter à l'œuvre de la croix. Et c'est ce que Paul montre dans ses épîtres. Il nous parle de ce que Jésus a accompli, lui-même étant au bénéfice de l'œuvre de Jésus. Mais Paul, dans ses enseignements, il pousse le peuple à aller au-delà de l'œuvre de la croix. Il pousse le peuple sur le chemin de la croix. Parce que, ce que Christ a accompli pour nous devrait nous pousser à quelque chose de nouveau avec le Seigneur tous les jours. C'est pour cela, au regard de ce que Dieu a accompli pour Israël, il va lui dire ceci. Dieu, il est fidèle, il garde son alliance envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Puisque Dieu, dans sa miséricorde, s'est choisi un peuple par le sacrifice de Christ, il nous veut consacrer à lui. Il nous veut tout entier. Et lorsque nous avons, et j'ai bien aimé ce chant que Jean-David nous a fait chanter, Christ, Rédempteur adorable. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, on a chanté, voilà, je ne veux que vivre de ta vie. Je ne veux que vivre de ta vie. Je ne veux plus vivre pour moi. Parce qu'il n'y a rien de bon en moi-même. Si je regarde à moi-même et si je veux vivre pour moi-même, je suis en train de mettre ce que Christ a accompli à la croix. C'est comme si je suis en train de l'enfuir quelque part. Parce que Christ a vu qu'il n'y avait rien de bon en nous pour pouvoir nous sauver nous-mêmes. C'est pour cela qu'il a livré sa vie. Non pas pour que nous nous arrêtions en regardant à ce qu'il a accompli, mais pour que nous puissions aussi emprunter un chemin autre que ce que nous menions autrefois. Un chemin, le chemin de la croix. Il dira, il garde sa fidélité envers ceux qu'il aime et qui respecte. Pour pouvoir respecter les commandements de Dieu, il faut l'aimer. Il faut l'aimer pour pouvoir respecter. Pour pouvoir mettre en pratique, vivre conformément à ce que Dieu nous dit, non seulement il faut le connaître, mais il faut l'aimer. Il faut que notre amour pour notre Seigneur, pour notre Dieu, surpasse notre amour pour toute autre chose. Et c'est pour cela que Jésus lui-même va dire dans Jean au chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez. Et au verset 21, il dira ceci, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. » On voit là qu'il y a réellement un lien étroit entre l'amour, notre amour pour Dieu et la mise en pratique de sa parole. Il y a un lien étroit. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans faire ce qu'il me demande. Et je ne peux pas faire ce que Dieu me demande si je ne l'aime pas. Il y a ce rapport étroit entre notre amour et la mise en pratique de sa parole, de sa volonté. Et notre amour en réponse de son amour, vous savez, c'est ça qui va conditionner notre marche dans la sainteté et dans la consécration. Ce qui va conditionner ma marche pour le Seigneur, ce qui va me motiver à mettre ma vie à part, à prendre position pour Dieu, c'est mon amour pour lui. C'est mon amour pour lui. Il dira, il garde son alliance envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et son mode de vie, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons le Dieu qui nous montre son mode de vie. Le mode de vie qu'il désire que nous menions. Il y a un mode de vie que Dieu a et auquel il attend ses enfants. Parce qu'il y avait un mode de vie dans lequel nous étions autrefois. Et il nous a sortis de ce mode de vie-là. Il nous a arrachés de cette condition terrible pour nous introduire dans une vie nouvelle. Et son mode de vie qui est décrit dans sa parole est une voie d'amour et de consécration. C'est un mode de vie qui me pousse à la consécration, à me mettre à part, à me livrer pour lui. Et lorsque nous lisons les 10 commandements, vous les connaissez? Les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il montre ces 10 commandements-là? Qu'est-ce qu'il montre les 10 commandements que Dieu a donnés à Israël? Tu ne fais pas ceci, tu fais ceci, tu ne fais pas ceci, tu fais ceci. On se dit, mais ce n'est pas possible. C'est invivable tout ça. C'est invivable. Ça n'apporte pas la vie. On ne peut pas se réjouir. Quand il y a constamment devant nous quelqu'un qui nous dit, ah, ne fais pas ceci. Ah, tu dois faire ceci. Tu ne fais pas cela. Et on fait quelque chose. Non, ne fais pas ceci. À un moment donné, on se dit, c'est invivable. On se dit, oh là là, oh, oh, oh. Écoute, mon bonhomme, laisse-moi faire ce que je veux. C'est ce qu'Israël a voulu faire. En allant au-delà de ce que Dieu avait prescrit. Mais vous savez, les 10 commandements, quand Dieu va donner les 10 commandements, il montrait à son peuple comment l'aimer. C'est simplement ça. Il montrait à Israël comment l'aimer et aussi comment aimer son prochain. Parce que aimer Dieu, comme Jésus va le dire à ses disciples, aimer Dieu, c'est aimer aussi ceux qui sont autour de nous. Dieu montrait à Israël comment l'aimer. Et l'amour d'Israël pour son Dieu était conditionné par l'obéissance à ce que Dieu lui disait de faire. C'est pour cela que nous ne devons pas voir la parole de Dieu dans son ensemble comme un fardeau. Parce que beaucoup, malheureusement, voient la parole de Dieu comme un fardeau, comme quelque chose de pesant. Quelque chose qui les empêche de vivre. Mais pour ceux réellement qui ont été transformés, pour ceux et celles qui ont été renouvelés, pour ceux et celles qui ont réellement réalisé l'œuvre de Jésus à la croix, ils acceptent le chemin de la croix. Ils acceptent les principes que Dieu a mis en place. Tout en réalisant que par ses principes, Dieu accorde à ses enfants une vie agréable qui a pour résultat la paix et le bonheur. Dieu veut notre bonheur. Oui, Dieu veut notre bonheur. Il dira à Israël, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Projet de paix et non de malheur. Le contraire du malheur, c'est le bonheur. Dieu veut le bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut t'accorder sa paix. Et lors même que tu es troublé à cause d'une situation, réalise réellement ce que Dieu te dit ce matin. Il veut ton bonheur. Et c'est la mise en pratique de ce qu'il te demande qui va t'accorder cette paix, ce bonheur-là. L'apôtre Jean dira ceci. 1 Jean 5, 3 à 4. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Parce que quand on parle de commandement, ça parle d'ordre. Mais on n'aime pas quand on nous donne des ordres. Et pourtant, l'apôtre Jean, cet apôtre qui a goûté à l'amour de Dieu, il dira, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas là pour nous empêcher de vivre. Ils ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce que tu vas recevoir de Dieu, même si ils sont difficiles à comprendre, à appréhender, tout ce que tu reçois de Dieu, voilà ce qui va te permettre de tenir ferme et d'être victorieux et de pouvoir résister à l'ennemi de ton âme qui est là constamment pour t'amener à passer à côté de ce que Dieu a prévu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce matin, que désirons-nous? Nous arrêter uniquement à l'œuvre de la croix ou marcher sur le chemin de la croix? Parce que la marche, elle implique réellement un désir. Il y a un désir quand je marche. Vous êtes-vous déjà arrivé de vouloir forcer quelqu'un à marcher si la personne ne veut pas marcher? C'est difficile parfois, hein? De vouloir amener quelqu'un à marcher si la personne ne veut pas marcher. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire marcher, vous savez, l'âne. Excusez-moi de prendre cet exemple, mais un âne. Vous savez, l'âne, c'est un animal très intelligent. Hein. Très, très intelligent. C'est un animal très intelligent. Mais quand un âne décide de ne pas bouger, vous ne le ferez pas bouger. Et parfois, c'est pour ça qu'on dit « têtu comme un bourricot ». Parce que quand il décide, il décide. Et malheureusement, parfois, vous savez, il y a des chrétiens comme ceux-là qui ont décidé, et ils ont décidé. Ils ont décidé, ils disent, voilà, non, c'est comme ça, oui, mais voilà. Pourtant, le même apôtre Jean, alors qu'il va montrer que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais ils sont là pour nous pousser au bonheur, il dira au chapitre 2, verset 6, l'amour consiste à marcher selon ses commandements. À marcher selon. C'est l'amour qui nous pousse. Dieu ne nous force pas. Il ne nous force pas. Il nous montre simplement ce qu'il a fait. Tout comme il a montré à Israël, il dira, voilà, ce n'est pas, si je vous ai choisi, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les autres peuples. Et Paul nous montre que si le Seigneur nous a choisis, nous a sauvés, ce ne sont pas à cause de nos actes de justice, mais c'est à cause de l'amour de Dieu. Et cet amour nous pousse à marcher selon ses commandements. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Marcher selon les commandements, c'est accepter malgré tout, même si je ne comprends pas, même s'il y a des choses qui m'échappent, à me dire, au regard de ce qu'il a fait, au regard de ce qu'il est, Je me décide à m'engager avec lui et pour lui. Il continue à dire ceci, c'est là le commandement dans lequel, j'aime les mots, vous devez. C'est là le commandement, le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Il montre que c'est par amour et non par obligation, mais il dit tout de même, vous devez. Ça veut dire ce que ça veut dire. Même si le Seigneur nous laisse le choix, il doit y avoir en nous-mêmes une prise de conscience que nous n'avons pas le choix, en fait. Dieu nous laisse le choix, mais au regard de ce qu'il a fait, je dois prendre conscience que je n'ai pas le choix, en fait. C'est paradoxal, hein, mais c'est ça. Je n'ai pas le choix. Parce que si je ne marche pas selon ses commandements, je retourne en arrière. Je fais ce que je veux. Et Christ est venu comment ? Il est venu parce que nous faisions ce que nous voulions. Nous faisions ce qui n'était pas agréable à Dieu. Et il nous a fait sortir de cette condition pour nous entraîner sur un autre chemin. Sur un autre chemin. Alors, frères et sœurs, ce matin, tout comme Dieu va dire à Israël, il garde son alliance, il est fidèle, il garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération, c'est-à-dire pour toujours, envers ceux qui l'aiment et qui gardent. En d'autres termes, Dieu est avec ceux qui se consacrent à lui. Il est avec ceux qui se consacrent à lui. J'aimerais ce matin que nous puissions faire ce test devant notre Seigneur. Parce que certains pourront se dire, je ne comprends pas trop ce que Dieu attend de moi. Je ne comprends pas trop ce qu'est la consécration. Mais j'aimerais ce matin que l'on puisse, si nous sommes sincères envers nous-mêmes, le seul moyen de savoir ce que Dieu attend de nous, c'est de lui demander et d'être disposé non seulement à entendre ce qu'il va nous dire, mais à faire ce qu'il nous demande de faire. Parce que parfois, Dieu ne va pas aller dans notre sens. Hein? Non. Il va simplement nous dire des choses qui nous sont bénéfiques. Sur la base de son amour. Il garde son alliance envers ceux qu'il aime et qui respecte. Alors, quand vous serez seul chez vous, dans votre méditation personnelle, dites à Dieu, parle à mon cœur, montre-moi, Seigneur. Parce que je ne veux pas, Seigneur, voir ta parole comme un fardeau. Je ne veux pas, Seigneur, que ta parole dans son ensemble soit vue de ma part comme quelque chose de pénible qui m'empêche de vivre. Mais je sais, Seigneur, que tu as en réserve pour ma vie une vie agréable. Mais la vie agréable, ça ne veut pas dire que voilà, le Seigneur va nous donner uniquement ce que nous voulons. Mais la vie agréable, c'est pour nous de faire ce que Dieu nous demande de faire, même si nous ne comprenons pas. Il garde son alliance Et c'est la suite, je termine juste avec cela, ce que Moïse va donner comme instruction de la part de Dieu. Regardez ce qu'il va dire. Je termine juste avec ces paroles. Il dira ceci, en revanche, il rend directement leur dû à ceux qui le détestent et qui les fait périr. Il rend directement, il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste, il lui rend directement son dû. Montrant par là que même si nous sommes libres de faire ce que nous voulons, si nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu demande de faire, alors qu'il nous a laissé libres, il y a quand même des conséquences. Mais pour nous préserver de ces conséquences, comme il va le faire à Israël, il dira « Respecte les commandements, les prescriptions et les règles que je donne aujourd'hui, mets-les en pratique. » Je termine et puis on va prier Dieu. Dieu dira, sache donc que l'Éternel est Dieu. Et il t'a choisi. Il nous a choisis. Quand on parle de l'élection, vous savez, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories qui sont dites sur l'élection de Dieu, mais réalisons une chose, Dieu est souverain. C'est un Dieu souverain. Même s'il fait des choses que nous ne comprenons pas, nous devons les accepter telles quelles, parce qu'il est Dieu. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Il nous a choisis pour que nous soyons des témoins à sa gloire. L'Église a été placée sur ici-bas pour être un témoin pour le Seigneur. Et ce n'est pas un hasard qu'il décide, il accepte que des églises soient implantées dans des lieux géographiques. C'est parce que le Seigneur désire faire briller sa flamme. Il désire non seulement que nous soyons remplis de sa flamme, mais que nous puissions resplendir. Mais pour pouvoir resplendir, il faut accepter que Dieu fasse son œuvre en nous. Mais Dieu ne fera jamais son œuvre en nous si je n'accepte pas le chemin de la consécration. Que son nom soit béni.